RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, il est 10h, vous êtes sur Radio Libre en Périgord. Vous avez vu comment je fais les choses comme les grandes radios maintenant, hein? Bah ouais, il n'y a pas qu'elles qui ont le droit de faire ça, merde, on est libre de faire ce qu'on veut, hein? Bon, bien sûr, si je vous ai dit il est 10h10 alors qu'il est 10h, vous auriez dit, Maurice, tu charries là. Mais non, il est 10h. Hein? Donc je commence mon émission de poésie pendant une demi-heure avec vous. Alors, il y a un certain monsieur qui s'appelle René II, donc c'est un noble, Obaldia. Alors, je pense qu'il doit être d'origine latine, peut-être. Hein. Et il dit, moi, j'irai dans la lune. Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas encore été. Hein. Moi, j'irai dans la lune avec des petits pois, quelques mots de fortune et Blanquette, mon oie. Eh oui, il a une oie qui s'appelle Blanquette. Alors, on pourrait dire Blanquette de veau, mais c'est une oie. Nous dormirons là-haut, un petit peu de guingois au grand pays du froid, où l'on voit des bateaux retenus par le dos, bateaux de brise-bise, dont les ailes sont prises dans de vastes banquises, et des messieurs sans os remontent des fauneaux. Blanquette, sur mon cœur, m'avertira de l'heure. Elle mange des pois, pour tous les premiers du mois d'ailleurs. Elle claque du bec, tous les minuits moins 7. Oui, j'irai dans la lune, j'y suis déjà allé. Une main dans la brume m'a donné la fessée. C'est la main de grand-mère, morte l'année dernière. La main de mon papa, aime bien trop les draps. Oui, j'irai dans la lune. Je vais recommencer, mais cette fois en cachette, en tenant mes souliers. Pas besoin de fusée, ni de toute une armée. Je monte sur Blanquette. Hop, et on est arrivé. Eh oui, bah oui, oui. Bah oui, les oies, ça vole, hein, les oies. Bah oui. Hein. Il y a eu un photographe comme ça qui était en ULM, un truc comme ça, et il y avait les oies autour de lui qui volaient en même temps que l'ULM. C'était très joli à voir. Mais ça fait déjà pas mal de temps. Hein. Ça fait un bail. Un bail. Alors. On va revenir sur Fleurs de Femme. Vous savez que j'ai fait 4 tomes de Fleurs de Femme. Hein. 4, vous rendez compte. Hein. Oh, j'en ferai bien un 5e un jour, parce que la femme est éternelle. Hein. Bon, le problème, c'est que moi, je ne suis pas éternel. Donc, j'ai intérêt à le faire avant que je casse ma pipe. Hein. Alors, là, dans le 3e tome, j'ai des choses un peu tristes. Hein. Par exemple, j'ai des poèmes qui viennent de Sarajevo. Hein. Là, j'ai la poupée qui saute sur mes genoux. C'est écrit ici à Périgueux, mais c'est triste aussi. Hein. Il y a aussi Potokari, qui se passe aussi à Sarajevo. Hein. Il y a la déraison, c'est le commencement de la maladie de ma femme. Bon. Il y a aussi des coups de cœur sur une belle petite créole. Bon, bah, c'est bien, hein. Alors, les facettes d'une personnalité, je vais vous lire. Ça fut écrit le 20 mars 2005. J'avais enfin réussi à rassembler toutes les facettes de ma personnalité, accompagnées par des miroirs biseautés. Celle qui arriva à la première affichait une tranquillité tellement effrontée que je crus me revoir au temps où mes sens n'en avaient déjà plus. Puis, plus discrète, quoique souriante, la deuxième à laquelle je ne m'attendais pas, prit sa place en toisant du regard la première déjà installée confortablement. Celle-ci avait vraiment changé puisque je ne la reconnaissais pas trop, malgré son beau visage conquérant. La troisième arriva plus tard et bien après que ma femme, peu habituée à ce jeu, ait jeté quelques facettes oubliées dans le fond obscur de ma mémoire et au pied des premières arrivées. J'avais beau tenter d'ignorer volontairement celle jetée en pâture par ma femme, elle s'accrochait à cette assemblée extraordinaire que je venais de provoquer par curiosité. En comptant celles que je m'accordais à reconnaître, je m'aperçus qu'il en manquait une. La salope. Elle avait décidé de me faire rager. Pourquoi m'avait-elle oubliée, alors qu'elle était restée ma préférée? C'est elle que je mettais à chaque fois que je voulais me faire admirer par la société. Elle ressemblait à ces belles mentalités qui s'habillent de paillettes et de larmes d'émotion et qui, comme un hasard calculé, arrivaient toujours au moment de se faire le mieux remarquer. Elle exagérait parfois en en faisant de trop, quand elle sentait qu'une autre facette tentait de la concurrencer afin de l'évincer. J'avais beau m'interposer entre mes facettes jalouses, il fallait qu'elle se batte à l'intérieur de moi et tente de me gagner. Enfin, cette belle arriva au beau milieu de l'assemblée, encore une fois pour se faire remarquer et rendre jalouse celle qui était déjà arrivée. La première prit la parole en m'accusant de la privilégier. Les autres, en se levant, approuvèrent la révoltée. Elles votèrent son exclusion de l'assemblée. Depuis, je ne retrouve plus ma personnalité qui m'allait si bien que je n'avais pas besoin de m'habiller. La femme qui est dans mon lit cherche depuis plusieurs heures ce que je suis maintenant, maintenant que cette petite est partie. Voilà. C'est triste. Hein. C'est triste d'en finir comme ça. Hein. Allez, tiens, pour la peine, on va appeler Bobo. Baby Lapointe, et c'est Bobo Léon.
Du Bobo Léon, il porte un bandeau Léon. Il a du Bobo Léon, au Bobo Léon. D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du Bobo Léon, il va peut-être canner Léon. Il a du Bobo Léon, au Bobo Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort.
Et voilà, c'est court, mais hein, c'est rapide hein, comme mort. Hein. Voilà. Je ne souhaite pas à tout le monde mourir comme ça, hein, quand même. D'abord, vous appelez pas Léon. Bon, donc, alors vous avez plus de chance, quand même. Alors, Léo Ferré. Avec le temps. Hein. Alors, c'est des chansons, mais que c'est comme si c'était des poèmes. Il suffit d'enlever la musique, de réciter à la place de la chanson de Léo, et puis ça y est, ça devient un poème de Léo. Pas de Léon, hein. On n'est plus avec Léon, là, on est avec Léo, c'est pas pareil. Et alors, naturellement, il avait des poèmes, enfin, ou des chansons fantastiques, ne serait-ce que celles que je vais vous lire. « Ni Dieu, ni maître ». La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate et le regard des coups de jatte. Il a dit des coups de jatte, hein, bon. Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe. Vous avez vu que j'ai imité un peu la voix de Léo Ferré, hein ? Ah ouais, je suis capable, moi. Vous savez, c'est comme les ventriloques, hein, ils peuvent faire n'importe quelle voix, hein. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles et qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la mallette, cette aube qui met la valette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices. Et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service, cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style, ce cri qui n'a pas de rosette, cette parole de prophète, il la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Voilà. Alors, qui c'est qu'un Dieu, qui c'est qu'un maître parmi mes auditeurs et mes auditrices ? Vous les virez quand c'est comme ça, vous les virez les dieux et les maîtres. Voilà. On n'a pas besoin de maître, on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Si on est humain, voilà, c'est tout, ça suffit. Être humain, c'est-à-dire avoir une certaine sensibilité pour les gens pauvres, les gens malheureux, les gens blessés, hein, les cul-de-jatte même. Hein. Excusez-moi, c'est le mot cul-de-jatte qui me fait tousser comme ça, je sais pas, à chaque fois que je donne du cul-de-jatte, je tousse. Ouais. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Bon, alors vous avez vu Léo Ferré, hein. Enfin vous avez entendu hein, Léo Ferré, hein. C'est quelque chose. Hein. J'ai payé combien ce bouquin-là ? Oh merde, il n'y a pas de prix, sinon je vous l'aurais dit. Hein. Combien je l'avais payé quand même, c'est normal que je vous dise. Tiens, il y a même un CD. Oh ! Il y a même un CD dedans, je n'avais même pas vu. Oh ! Oh ben je vais pouvoir vous faire écouter. La prochaine fois, ce n'est pas moi qui vais le réciter, c'est lui. Hein. Il l'a mis dedans. Oh merde, c'est que de l'espagnol. Oh ! Eh ben oui, c'est Jean Pauverdier qui chante les chansons de Léo en occitan. Oh ben je vais vous les passer la prochaine fois. Hein. Je le remets dedans, là, mais je savais même pas qu'il était dedans. Il était à la dernière page. Vous vous rendez compte, grâce à vous, j'ai enfin trouvé quelque chose d'intéressant. Hein ? C'est gentil, ça, c'est gentil. Alors, Federico Garcia Lorca. Bon, c'est encore de la pointure, ça. Hein. Alors, il a fait des poèmes. Bon, oui, alors, il en a fait. Hein. Donc, ça... Et alors, il y en a un qui s'appelle Le Bouc. Ah ouais, Le Bouc. Il l'a fait en 1919. Ouais, ça fait plus d'un siècle. Hein. Il doit être vieux, Le Bouc. Hein. Oh, il doit être vieux. Bah oui, il a plus d'un siècle. Alors, en parlant de bouc, moi, le mien, il a combien, mon bouc ? Il a au moins 40 ans. Hein. Bah oui, ma barbe, on appelle ça un bouc aussi. Hein. Donc, il est plus jeune quand même que le bouc de Federico Lorca. Bon. Le troupeau de chèvres est passé, près de l'eau de la rive, dans le soir de rose et de saphir. J'admire le grand bouc qui les guide. Tiens, je viens de perdre un poil de barbe qui était tombé sur la table du studio. Oh, merde. Bon, ben oui, mais c'était, je vous parle de mon bouc. Le poil, il vient de mon bouc. Bon, ça va avec le poème. Hein. Bon. Salut au démon muet, tu es l'animal le plus fougueux, mystique, éternel, de l'enfer charnel. Quel pouvoir dans ta barbe. Tiens, lui, c'est... Ben oui, un bouc, il a une barbe. Ou une barbe, c'est un bouc, comme vous voulez. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Dans ta barbe et ton front large, rude Don Juan, quel accent dans ton regard. Méphistophélique, faut que je regarde ce dictionnaire, ça veut dire. De passion, tu vas au champ avec tes femmes, comme un eunuque. Étant insultant, ta soif de sexe jamais ne s'apaise. Digne apprenti de Pan, ton père. La chèvre te suit à pas lents, humble et amoureuse, insatiable. Et ta passion, la Grèce ancienne, te comprend. Oh, être venu du fond des légendes saintes, oh, parmi tes rochers noirs et les croix grotesques, les animaux domptés et les grottes profondes, Satan et les maigres ascètes, te virent parmi l'ombre, souffler la flamme du sexe, au bouc cornu, à la barbe vaillante, comme la mienne d'ailleurs, elle est vaillante la mienne, et puis celle de Antoine qui est en face de moi, elle aussi, elle est vachement vaillante. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, c'est bien simple, c'est ma barbe qui tient le livre, et c'est sa barbe qui pousse les manettes. Elles sont vachement vaillantes, hein, nos barbes. Hein. Enfin, ou nos boucs, comme vous voulez. Hein. Noir, agrégé du monde médiéval, tu naquis auprès de Philomède, entre l'écume chaste de la mer et tes lèvres, la caressèrent étonnant le monde astral. Bouc, vous venez des bois pleins de rosée, où l'ouragan se fait lumière, et des prés d'Anécraon, baigné de sang de l'immortel, ô bouc, vous êtes la métamorphose de la race éteinte, des satyres anciens. Plus qu'aucun animal sur terre, vous prodiguez la luxure vierge. Illuminé du grand midi, arrêtez votre marche pour écouter du fond des campagnes le coq qui vous dire « Salut, vous qui passez !» Alors, je sais pas, le coq, comment il fait ?« Salut, vous qui passez ?» Non, il ne fait pas faire comme ça. Je pourrais pas vous le faire. Bon. Ça serait... je vais m'exercer pour le faire et je vous le ferai la semaine prochaine. L'histoire du coq, là. 1919. Là. C'est pas beau, ça. On écrivait bien en 1919. Hein. Ah ouais, il y avait des gens qui écrivaient bien. Hein. Ouais. C'est normal. Hein. Alors, on pourrait peut-être vous passer un petit Prévert. Hein. Bah oui. Il y a longtemps que je n'ai pas. Le tourneur de ritournelle.
Charme de Londres. Le tournesol est une fleur, le tournevis un outil, le tournepierre un oiseau, le tournebus est un homme. Tourneur de ritournelle, comme d'autres de cuivre ou de porcelaine, un gentleman en habit noir, dans les plus riches quartiers, travaille surtout le soir. Et la très mauvaise musique de son clavecin mécanique entraîne le mélomane dans un autre domaine que celui du savoir. Alors le mélomane, à juste titre irrité, comme il paierait pour passer un pont, jette une méprisante pièce de monnaie pour acheter le droit d'oublier la chanson. Bien sûr, un homme peut perdre la mémoire, surtout quand il a les moyens, mais la mémoire peut égarer un homme tout aussi bien. Et le voilà comme dans la tour de Londres, prisonnier de cet air grégaire et méprisé, de cet air de cordes et de cuivre, et d'espoir et de vent, et de rêves brisés, de jeunesse perdue, de beauté saccagée. Et il a beau presser le pas, les épaules levées et la tête hochée, des souvenirs en foule, en dansant devant lui, l'empêchent d'avancer. Alors il les suit et se laisse emporter, comme un enfant très distingué, entraîné malgré lui par une nurse un peu saoule, soudain follement heureuse d'être si mal élevée, dans le sauvage jardin des fées, en pleine vulgarité.
Voilà. C'est pas beau, ça, hein? Et en plus, entendre sa voix, ça, c'est quelque chose. Hein. C'est pas permis à tout le monde, hein, d'entendre sa voix. Il y a que moi qui vous fais passer des trucs comme ça. Hein? Demandez aux autres, là, aux autres animateurs. Jamais ils passent la voix de Prévert. Jamais. Hein? Je suis même pas sûr qu'ils savent qu'il existe, Prévert. Hein? Bon. Ben, si un poète ne sait pas que Prévert existe, alors là, ça devient grave. Hein? Bon. Et vous savez que moi, c'est mon préféré. Je m'inspire de lui, je ne copie pas ce qu'il dit. Mais je m'inspire de sa façon de mettre les textes en dérision, comme ça. Hein, parce que, je ne sais pas, moi, quand il fait ses, comment ils appellent ça, là, ses tombeaux, quand il fait les jeux de mots, j'adore ça. Alors là, j'ai un petit poème, enfin un petit, non, il fait quand même presque deux pages, qui a été écrit en 2004, un 15 septembre, et j'étais à Paris, figurez-vous. Je ne sais même pas si ça fait depuis, je n'ai peut-être pas retourné, d'ailleurs. Paris, ça ne m'intéresse plus, j'ai vécu 45 à 69, 1969, non, 1977. Alors oui, bon, ça va, j'en ai par-dessus la tête, et Paris, c'est beaucoup moins bien, Paris, maintenant. Hein. Ouais. Le Paris des amants. Elle s'était assise pieds nus sur la margelle de cette fontaine. Le bonhomme à tout faire, malgré l'hiver, se servira des pluies d'amitié et des nurseries de certaines bonnes volontés. J'étais si proche d'elle, tout juste à un geste et à quelques sentiments près. Je devinais son odeur empruntée à une papaye qui traînait près du marché aux fleurs de la cité. Sa peau, café odorant, frissonnant dans le vent en devinant ma présence. Ses pieds libres de souliers avaient pris l'habitude de rester calmes parmi l'agression des piétons cloutés. Ses yeux noirs, caramélisés, ne voyaient plus cette foule de vieilles choses en me fixant sans vraiment me voir. Le vent poussa un cri dans son dos en y déposant des mots sous forme de gouttes d'eau. Soudain, elle se leva sans jeter un regard vers moi, alors que j'avais les mains tendues pour la recevoir. Un homme surgit du métro Châtelet. Elle se précipita dans ses bras encombrés de gestes déjà entamés par l'amour. Son sourire reprit sa place parmi ses regards unilatéraux. J'entendis sa langue lui dire le goût de son désir, puis ses mains se prirent la tête et la taille. Elle parla longtemps dans ce langage coloré que je ne connaissais pas, celui de là-bas que l'on parle parmi les palmiers. Elle mit à sa bouche un chocolat. Je vis ses dents et un rire en sortir brillant. L'Afrique visitait Paris en coulant le long de ses flancs de Seine par ses amants. La différence n'était plus indifférente pour cette capitale de toutes les couleurs qui savait absorber cette beauté. Les femmes métissées embellissaient cette ville grise en laissant traîner des parfums colorés derrière chacune d'elles. Le brassage et le balayage se regardaient rumer parmi les cajots sur le trottoir en fin de marché. L'île dansait comme un bateau ivre de joie au-dessus de ses caves aux pieds humides en se soulevant dans le fleuve de ses excès. La ribaude, de mes 25 ans, était morte en emportant avec elle ses chansons paillardes et ses activités collées démontées sur des hauts talons dorés sur ce Paris de son canier. Alors, ce fameux restaurant Larry Brut dans l'île de la Cité, dans les années 70, on pouvait chanter des chansons paillardes, figurez-vous. C'était, le restaurant était, on mangeait, mais on pouvait. Et alors, il y avait des femmes super collées montées, et d'un seul coup, elles se laissaient aller à chanter des chansons. Alors, par exemple, dans la gare de Mines, il y avait des wagons pleins, valavés, mal propres, et puis ainsi de suite. C'était assez marrant. On était surpris avec ma femme, parce qu'on n'était pas venu là pour ça. Et bien, d'un coup, moi qui avais fait l'armée, j'avais quelques chansons encore paillardes dans ma tête. Je me suis mis à chanter avec elle. Et avec eux, parce qu'il n'y avait pas que, il y avait pas qu'elle. Ben, je vais être obligé de vous quitter, hein. Carrément, oui, carrément. Bon, Jaco, t'oublies pas, hein. Bon, tu sais qu'on a rendez-vous, hein. T'as intérêt à prendre une douche, hein. Bon, je blague, attends, lui, elle a 85 ans, bon, elle n'a pas besoin de prendre une douche à ce stade-là. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que je vous aime. Et particulièrement mes auditrices, bien sûr. Bah, mais que, bon, alors les autres, les auditeurs, c'est comme des copains, quoi. Hein, hein, on se tutoie, quoi. Hein. Allez, à bientôt.